L'anglais, je sais pas avant quoi ce mot. Simon, Simon. Mais j'ai prié pour toi, pour que ta foi ne s'arrête pas. Et toi, quand tu t'es tourné, alors fortifie tes frères. Seigneur, nous voulons, dans toutes les épreuves, intercéder dans la prière, te purifier. Nous ne voulons pas regarder, nous voulons dans la prière combattre pour eux. J'ai entendu aujourd'hui que dans le Seigneur, dans les épreuves, il donne les épreuves pour qu'on ait toujours la sortie. Mais l'ennemi, il essaye qu'on soit sorti. Mais c'est précieux d'être à Sion. Parce que Sion, nous avons toute une équipe qui se tient pour nous de la prière. Pour toutes les épreuves qu'on ne regarde pas passivement, qu'on puisse prier pour eux. C'est le combat spirituel que nous devons faire. Donne-nous de la grâce que nous puissions, au bon temps, quand les mauvaises pensées viennent, quand le péché veut commencer, que nous ayons les bons versets, que nous puissions nous tourner vers notre esprit, écrire-les dans nos cœurs. Merci Père pour ta miséricorde pour nous tous. Nous te faisons confiance, nous croyons. Tu es le Dieu Tout-Puissant. Nous te faisons confiance. Nous regardons à toi ce soir. Nous mettons notre confiance sur toi. Nous te louons. Que tu puisses tous nous bénir et que tu nous parles dans notre entendement. Que tu puisses réveiller l'esprit. Et que l'épître de Jacques nous voulons avoir ton onction. Que tu puisses nous apprendre de pouvoir passer par ces épreuves. Nous voulons ensemble parvenir au but. Merci Père. Louez le Seigneur. Fais conscience pour cette réunion. Est-ce que vous avez continué? Louez le Seigneur. Qu'est-ce que je dois dire? L'épître de Jacques, c'est une épître très importante. Très important. Bien que beaucoup ont dit, tant prier de Christ. Mais en fait, nous donne un merveilleux chemin. Tout ce que nous avons entendu dans la Bible, ça mène nos buts. C'est si important. C'est si important. Cette épître est si important. Je ne peux pas le dire assez. Nous devons apprendre de Jacques de pouvoir prendre le chemin pratique au but. Et ici, nous voyons que sans les épreuves, nous n'arrivons pas au but. Ça, nous devons tous avoir cette conscience. toutes les épreuves par lesquelles nous sommes passés depuis le jardin d'enfant. C'est exactement ainsi à l'université. Il y a tant d'examens. Et sans examen, nous n'apprenons pas à savoir. Et si nous ne réussissons pas l'examen, alors nous ne pouvons pas continuer. Ce n'est pas ainsi. Mais malheureusement, nous avons une mauvaise représentation de notre vie spirituelle, personnellement, que dans la vie de l'Église. Est-ce que ce n'est pas bizarre? Nous pensons, je crois seulement à la parole, et il y a tout qui est en ordre. Louez le Seigneur. Jésus-Christ, je suis sauvé de tous mes péchés, je t'ai pardonné. J'ai besoin de rien d'autre. J'attends le retour du Seigneur. Ce n'est pas ainsi. Ce n'est pas si facile. Il doit y avoir une croissance dans notre vie spirituelle. Pour le gagner. Pas seulement savoir, mais avec la réalité. Pour ça qu'Hébreux 11 est si important. Nous devons tous, tout ce que nous avons entendu, on doit avoir la substance. Nous devons aussi avoir la réalité. Nous devons avoir la preuve de ce que nous vivons. D'où est-ce que tu sais que tu as la réalité? Si ce n'est pas par les épreuves, si je ne serais pas testé. Nous ne savons pas si nous avons vraiment appris quelque chose. Sinon, nous disons la Bible. Et après avoir lu, il y a les choses qui partent. Et on a déjà directement oublié. Tu fais la veille du matin. Tu as déjà oublié ce que tu as parlé. Particulièrement, si dans les épreuves tu te tiens, tu as déjà tout oublié. Mais malheureusement, c'est ainsi dans notre vie spirituelle. Il y a tant d'années, j'ai vu Christ, j'ai tant de connaissances, mais je ne l'ai pas utilisé. Pas parce que j'ai pas lu, parce que j'ai pas la foi. Ce que nous avons lu et ce que nous avons vu, on l'a pas mis en pratique. Ils ont entendu et ils lisent beaucoup, mais ils ne mettent pas la parole en pratique. Comme dans Jacques 1, Paul nous dit: c'est un avertissement. Nous sommes nous-mêmes trompés. Est-ce que ce n'est pas triste? Pour ça, nous avons tant de problèmes dans notre vie de l'Église. Dans le passé, j'ai eu tant de problèmes, j'ai vu tant de problèmes. C'est ce que nous avons entendu, ce que nous avons lu. Ça n'a pas fonctionné. Dans cet épître de Jacques, si on l'enlève, l'épître de Jacques n'appartient pas à la Bible. C'est terrible. De quoi? L'épître de Jacques n'appartient pas à la Bible. Est-ce que tu penses, notre Seigneur, notre Dieu grand et vivant, il a fait une erreur? Ou est-ce que Paul a fait une erreur? Paul dit que toute l'Écriture vient de Dieu, est inspirée de Dieu. Mais elle est utile Peut-être que quelqu'un vient et nous dit, l'épître de Jacques, nous devons le débarrasser. Dans l'épître de Jacques, si on l'enlève, ou si on le simplement, si on l'exquise, on le surpasse. C'est au moment que j'ai plus parlé allemand et cherchais le mot, comment est-ce qu'on disait. Parfois, il y a les mots qui me manquent. C'est ainsi, frères et sœurs, nous avons besoin de cette épître. Cette parole est pour nous si pratique, et aussi dans notre vie de l'Église. S'il y a un problème qui vient, s'il y a une épreuve qui vient, alors on a échoué. C'est vraiment une chute. C'est une chute. Des chutes. Une trappe. Et nous tombons dans le puits. Alors, bien que la chose est si grande, s'il y a une épreuve qui vient, nous n'avons pas réussi l'épreuve. On a même, et encore plus de problèmes qui viennent, et plus de difficultés dans notre vie journalière. Pour cela, nous voyons directement au début, Jacques vient directement au point. Il y a tant d'autres choses qui sont parlées. Pas quelque chose qui est écrit. Jacques vient au point. Regardez comme une joie complète si vous tombez dans des épreuves. Il vient directement au point. Pas que parlons beaucoup. Tous les apôtres ont déjà beaucoup parlé de Christ, de merveilleuses révélations de Jésus-Christ. Nous avons besoin de ce frère qui met directement au but. Si nous n'avons pas cette épreuve, nous ne pouvons pas voir où c'est que nous nous trouvons. Nous allons tous être enlevés, nous voulons tous parvenir à maturité. Mais nous ne devons pas avoir d'épreuve. Vous avez tous les problèmes, tous les petits problèmes. Et un plus grand problème, une plus grande épreuve de voir est-ce que tu es prêt pouvoir essayer. Il y a tant d'épreuves, nous devons passer par tant d'épreuves. S'il y a un animal ou un chat, peut-être que si nous sommes un chien, nous avons quelques épreuves, nous devons faire des exercices. Nous ne sommes pas utiles. Mais nous, les hommes, nous avons besoin d'épreuves pour prouver que maintenant nous sommes prêts de venir à une étape plus haute. Ça veut dire que nous avons grandi. Si je te demande ou si quelqu'un te demande dans ta vie chrétienne? Comment est-ce que tu répondras? Paul a dit, vous êtes toujours des enfants. Vous avez toujours besoin de lait, vous buvez toujours du lait, vous n'êtes pas des adultes. Ce qu'il n'a pas dit dans 1 Corinthiens 10, 3. Pas qu'ils ne savaient pas. Ils avaient déjà entendu quelque chose. Les disputes. Le moi. L'orgueil, ils pensent qu'ils sont mieux que les autres. Nous avons encore tant de problèmes. Quand les zèbres viennent, alors nous échouons directement. Nous pensons, nous sommes si bons, nous sommes mieux que les autres. Mais quel est le résultat? De nouveau, une séparation, une division. Est-ce que ce n'est pas une chute? J'espère que. Mais malheureusement, c'est toujours ainsi. Et aussi dans l'épître d'Hébreux, nous étions dans Hébreux. Paul a dit la même chose. Au chapitre 5, à la fin, à longtemps, vous devriez tous des maîtres, être des enseignants. Mais vous devez toujours encore boire du lait. Cette parole du début de Christ qui nous donne. Ne vont pas tout porter. Et comment est-ce que nous le voyons? Dans notre vie journalière, dans la vie de l'Église, dans les problèmes, dans les épreuves. Les épreuves sont si importantes. Les épreuves sont si importantes. Est-ce que tu aimes un homme qui aime les épreuves? Est-ce que ABC te suffit? Et tu peux compter, tu peux lire le journal? Alors tu es déjà un ingénieur. Si 1 plus 1 est égal à 2, si tu peux compter, tu peux faire quelque chose tu peux être comptable dans une entreprise. Comptable. Non. C'est pas si facile. Et si dans notre vie humaine, si c'est pas facile, est-ce que tu penses, de manière spirituelle, c'est facile? C'est beaucoup plus difficile. Les difficultés sont plus difficiles, ils ne sont pas exercer. Regarde la vie de foi d'Abraham que j'ai mentionnée hier soir. Il a aussi besoin de croissance, il a besoin de beaucoup d'expérience, il a aussi besoin de beaucoup d'erreurs, il a fait beaucoup d'erreurs, il a sûrement appris beaucoup de ses erreurs. Pas qu'il est directement si fort dans la foi, non. Du début, Dieu lui a même dit, il doit tout laisser, la patrie de son père, la maison de son père, la maison de ses parents, ça. Il a dû tout laisser pour être presque ce que tu aurais fait ainsi de te sortir, déménager? Non. Il a besoin de temps. Dieu a pu, pas après pas, le guider. Et il a eu beaucoup d'examens, d'épreuves. Et il est tombé certaines fois. Pour ça, frères et sœurs, que nous puissions apprendre de Jacques. Tout ce chapitre 1, Jacques parle des principes de base, des épreuves, ce dont nous avons besoin pour pouvoir réussir l'examen, les épreuves, pour avoir notre foi qui soit éprouvée. Ce temps est si important pour éprouver notre foi. Jacques l'a dit, Pierre l'a dit, notre foi est éprouvée, même par le feu. Le feu? Seigneur, tu sais, je dois être testé par le feu. Je pensais que la foi, c'est facile. La parole existe. Jacques a dit, je crois aussi en Dieu. Je ne vois rien. Et comment c'est avec nous? Nous croyons Dieu, mais pourquoi? Est-ce que nous avons tant de difficultés pour nous? La foi seule, Jacques dit. La foi va être éprouvée, montrée que c'est réel par nos œuvres, par notre vie, c'est Jacques qui dit dans le chapitre d'après. Sinon, la foi est morte. Ah, je crois, personne ne peut œuvrer cela. Est-ce que tu aimes entendre ça? Est-ce que tu enseignes cela? Pour ça que Martin Luther, il était très offensé par Jacques. Martin Luther, par la foi, il n'a pas eu la justice. C'est pour ça que Jacques dit, sans les œuvres, c'est mort. Ça donnait des douleurs. Qui c'est qui a raison? Les deux ont raison. Nous sommes justifiés, pas par les œuvres, mais par la foi. La foi, c'est le premier pas. Mais ensuite, si tu as cette foi précieuse, si tu l'as reçue, comme Pierre l'a dit, nous avons tous la même foi précieuse. Alors, ça doit être éprouvé par notre vie journalière. Hébreux dit que ça doit être substantifié. Ça doit même être prouvé. Et Pierre dit exactement la même chose dans 2 Pierre 1. Après, nous avons reçu cette foi, alors nous devons être assidus d'augmenter, de gagner ses vertus. La connaissance par la foi, pas la doctrine, mais la vraie connaissance de Dieu, de pouvoir reconnaître Dieu. Et nous devons continuer de grandir. La maîtrise de soi, de la maîtrise de soi. Est-ce que tu as la maîtrise de soi à la maison, dans ton couple, si ta femme te dit tu as la maîtrise de soi, aimez, aimez, aimez vos maris. Qu'est-ce qui vient de notre bouche? Et il y a un volcan qui éclate dans notre bouche à la maison. Ne pense pas que c'est facile. Non. Dans beaucoup d'épreuves, et la patience. On doit avoir la patience. Persévérer. D'avoir cette piété par la foi. Et avoir l'amour fraternel. Nous aimons tous ce mot, l'amour fraternel. L'amour fraternel. Mais est-ce que tu penses, l'amour fraternel, c'est seulement la doctrine, c'est si facile? Non. Nous devons grandir. Et à la fin, avoir l'amour de Dieu. Toutes ces choses ne viennent pas en une nuit, mais par beaucoup d'épreuves. Pour être éprouvé. Sans les épreuves, pour ça qu'il dit, dans Philippiens 1, à la fin du chapitre, il nous a donné tous les dons. Pas de seulement croire en lui, mais pour abréver sa connaissance, on va seulement avoir. Pas seulement croire. Simplement de croire, c'est facile. Ah, mais de souffrir, personne n'aime souffrir. Frère, loue le Seigneur. Je te vois, frère. Est-ce que tu aimes souffrir? Pas vraiment. Mais l'épître de Jacques, j'espère que ton opinion va changer. D'être plein de joie. Nous devons nous exercer. On doit s'exercer. Autrefois, ce qui s'est passé, j'étais rapidement à terre. J'étais à terre. Mais j'ai appris. Maintenant, je me réjouis. Pourquoi? Parce que là, je peux gagner Christ. Parce que je sais. C'est bon pour moi. C'est bon pour moi. Ça vient au Seigneur. C'est effectivement le cas. Et après chaque fois, je suis toujours de plus joyeux. La dernière fois, alléluia, louez le Seigneur. Regarde, le Seigneur aussi était rejeté. Il a été crucifié, pas seulement rejeté, mais il a été crucifié. Et Pierre est parti. Il n'était pas encore si loin. Il voulait. Il a dit au Seigneur, j'irai avec toi jusqu'à là, à la croix. La volonté était bien, mais d'achever, d'ouvrir ça, c'est rien. Il n'était pas là. Pour la croissance, nous devons apprendre. Ce livre de Jacques nous montre comment est-ce que nous devons apprendre. Comment est-ce que nous devons réussir toutes ces épreuves. Et j'espère avec la meilleure note, pas seulement avec de juste réussir ou même de rater. Seigneur Jésus. En Allemagne, c'est 1, 2, 3, 4, 5. En États-Unis, c'est A, B, C, D, E, F. C'est un F, c'est que tu as raté l'examen. Éprouvez votre foi. L'épreuve de votre foi, c'est très important. Sinon, tu peux connaître toute la Bible. Tu peux l'apprendre par cœur. Ça ne va rien servir sans l'épître de Jacques. Si tu as l'examen qui vient, tu as tout oublié. Le temps des examens, ça rend les gens nerveux. Et si tu es nerveux, alors tu oublies tout ce que tu as appris. C'est ainsi. Je crois que nous pouvons tous confirmer cela. C'est très pratique. L'épreuve de notre foi œuvre l'endurance. Tu peux avoir l'endurance. Pas la prendre par d'autres chemins. D'apprendre de jouer du piano, c'est un bon exemple. D'avoir l'endurance. L'endurance. S'exercer avec des larmes. Non. J'aime pas aller jouer avec mes enfants et avec mes petits-enfants. Et avec moi-même. L'exercice fait le maître. Et la patience à faire son œuvre parfaite, louer le Seigneur. C'est une parole de sagesse. Jacques parle de la sagesse. C'est un frère très sage, mais c'est pas la sagesse de la chair. Mais c'est la sagesse d'en haut. Et le Seigneur dit, nous devons être des vierges sages. Pas être folles. Et d'être des serviteurs sages. Pas fous, mais sages. Il dit aussi, nous devons être sages. D'éprouver, c'est important. Si les grands-parents directement pas réussi les examens, le premier examen directement, ah, un examen important. Au début, les hommes doivent être éprouvés, testés. Sans examen, ça ne va pas. Dieu accepte cela. Il y a un combat entre Dieu et Satan dans cet univers. C'est pour ça que Dieu nous a donné aux hommes la liberté. Tu dois choisir, tu dois t'exercer. Tu dois apprendre. Combien de fois est-ce que nous tombons? Dans ces épreuves. Du côté de Satan, c'est de la tentation, mais de Dieu. Dieu ne tente personne. Ce que Jacques nous dit, comme il est écrit, Dieu ne peut pas être tenté par le méchant. Il va tenter personne, mais c'est une épreuve. Peut-être au début, Adam et Ève, au début, ils pensaient c'est merveilleux. Ils ont directement été testés. Satan dit oui, comme tu as été créé ainsi, exactement comme nous. Bon et merveilleux, Dieu a. Ils ont aimé Dieu. Si Satan est venu, oui. Il a dit bien sûr qu'il t'aime parce qu'il t'a donné tant de cadeaux, tu t'as rendu si riche, il t'a béni. Dieu a dit fais ce que tu veux avec Job, il a dit fais ce que tu veux avec lui. Nous devons reconnaître le plan de Dieu, connaître, comprendre Dieu. Pas avoir un mal de comprendre, parce que nous, si nous tomberons dans les épreuves, alors nous allons nous plaindre contre Dieu. Pourquoi est-ce que tu acceptes, tu laisses cela, tu permets cela? Pourquoi est-ce que tu as accepté de faire cela? Mais ne jette pas l'erreur à Dieu. Combien de fois est-ce que tu jettes l'erreur à Dieu? Pourquoi est-ce que tu m'as créé ainsi? Pourquoi est-ce que ce frère, il est si en forme et moi je suis un peu malade? Alors tu te compares, on se compare les uns aux autres. Si nous tombons dans des épreuves, dans une épreuve, au lieu de se réjouir, nous disons Dieu, c'est lui qui a l'erreur. C'est tu m'aimes, pourquoi est-ce que tu laisses cela se passer? Alors, tu doutes de l'amour de Dieu. Prendre garde de ne pas manger au mauvais arbre. Dans un examen, nous devons voir dans l'épître de Jacques. Pas prendre verset après verset, mais nous voyons là. Satan est à l'œuvre par ses épreuves. Du côté de Satan, c'est une tentation. C'est les désirs de la chair. Il veut nerver pour que le péché vienne. Et à la fin, Jacques dit, le péché va... Et quand le péché est né, alors il y a la mort qui vient. C'est la mort spirituelle. Si nous n'avons pas reconnu que cette épreuve de Dieu vient de Dieu, pour que nous puissions être parfaits, sans tâche, ne manquer en rien, avec ces épreuves, chaque épreuve, nous devons être parfaits. Nous devons réussir l'examen, l'épreuve. Et dans le pire cas, latin 3, le latin réussi, c'est les notes allemandes. Là, c'est la meilleure note. Si nous ne voyons pas cela, au lieu de gagner Christ, alors ton désir est attiré. Et tu vas donner l'erreur, la faute à Dieu, et tu vas pécher, et tu vas même pécher contre Dieu, et tu fais d'après ta chair. Et Jacques dit, le résultat, c'est la mort. Ceux qui ne réussissent pas les examens, j'ai pas compris ce qu'il a dit. Ah, nous devons répéter jusqu'à ce que nous l'avons appris. Mais Dieu ne nous voit pas. Et si nous ne sommes pas si loin, alors je dis ok, j'attends. J'attends. Cette preuve, c'est important parce que si nous voulons être accomplis, parvenir à la perfection comme Hébreux 6, alors ces paroles élémentaires, ces doctrines de Christ, ces doctrines fondamentales. Beaucoup de croyants pensent, ils restent à ces doctrines, le salut, Christ est mort pour moi, le pardon, louer le Seigneur. Ils restent dans cette base. Comment est-ce que nous pouvons le laisser? Par les épreuves. Nous sommes exercés. Ce que Paul dit dans Hébreux 5, c'est pour ça. L'épître de Jacques, c'est un complément à Hébreux, cet ordre dans la nouvelle alliance. Ils sont mis dans l'ordre de Dieu à ce qu'ils grandissent. Il nous amène pas après pas au but. Ceux qui sont en maturité, ils ont exercé le être de discerner entre ce qui est bien et ce qui est mauvais. Alors ils peuvent voir, comme Paul a dit dans Corinthiens 2, un homme spirituel peut discerner ces choses. Mais un enfant, seulement un écolier ne peut pas discerner. Pour ça que l'ennemi essaye aussi de que les enfants laissent dans leur facilité. Mais vous, frères, nous devons être de telles personnes pour pouvoir discerner. Et malheureusement, un homme spirituel peut intercéder seulement, discerner seulement les choses spirituelles, peut tout discerner. Satan vient pour tout détruire, pour nous détourner. J'aimerais bien plus apprendre. Et pour cela, l'épître de Jacques dit, j'ai la traduction là, sous les yeux, pour ça qu'il dit, si quelqu'un manque de sagesse, l'Église, c'est pas une sagesse humaine. C'est pas la sagesse naturelle. Comme Paul a dit, la sagesse des hommes est une folie pour Dieu. Sagesse des hommes. Comment est-ce que nous devons, dans toutes les épreuves, c'est égal si nous sommes tentés? Si c'est Satan ou c'est des choses du monde qui nous attirent, la guerre, le virus et tout, c'est égal. Est-ce que nous avons besoin de la sagesse de Dieu? Qu'est-ce que je dois apprendre de cela? Nous avons besoin de la sagesse d'en haut, la sagesse d'en haut. La sagesse ne suffit pas pour combattre contre l'ennemi. Alors, j'ai même plus besoin de combattre. Non. Nous avons besoin de la sagesse de Dieu. Nous avons besoin de la parole de Dieu. Si tu ne mets pas de la parole en pratique, mais tu entends seulement, alors tu ne pourras pas réussir les épreuves. Si cet examen vient, si tu as seulement de la connaissance dans la tête, et les désirs de la chair viennent, alors tu vas tomber. Tu vas être à terre. Tu ne peux pas réussir. Parce que tu ne mets pas la parole en pratique, tu n'es pas exercé. Que cette parole que tu as lue ou que tu as entendue, pour la mettre en œuvre, pour avoir la substance, avoir la réalité. Si tu n'as pas une telle foi, comme Hébreux 11 le dit, lorsqu'il y a une épreuve qui vient, est-ce que tu penses que tu auras la force? Est-ce que tu as un chemin pour en sortir, pour vaincre? Tu ne veux pas vaincre. Parce que tu entends seulement la parole. Tu ne la mets pas en pratique et tu ne la vis pas dans ta vie. Mais si nous, on mange la parole et la parole œuvre dans des petites choses, tu entends et tu te tournes, tu utilises la parole, tu la mets en pratique. Même si tu parles à ta femme, même si tu fais du travail à la maison, même dans des choses pratiques, tu ne te tournes pas au Seigneur et tu ne dis pas « Seigneur, comment est-ce que je dois faire cela ?» Tu dis pas au Seigneur « Ah, reste assis là et je fais. » Et à la fin, le résultat, c'est le chaos. Non. Zacharie a vu des chandeliers d'or et le Seigneur lui a demandé « Zacharie, qu'est-ce que tu as vu ?» Un chandelier d'or, est-ce que tu sais qu'est-ce que c'est ? Oui, je sais. Je sais, ça donne la lumière. Ça, j'aurais répondu ainsi. Ça, c'est ma sagesse. Où est le frère sage? Comment est-ce que tu répondrais si l'ange te pose cette question? Le chandelier prie, et qu'est-ce que c'est? Zacharie a répondu. Je ne sais pas. Mais tu sais. Ça, c'est la bonne attitude. Et bien sûr, tu sais ce qu'est un chandelier d'or. Quelqu'un qui a un chandelier d'or, ça brille. Si tu vois l'image, du chandelier d'or, si je te demande, frère, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est un chandelier en or? Pourquoi? Pourquoi est-ce que c'est un chandelier? Bien sûr, c'est pour donner de la lumière, n'est-ce pas? Ah, ce frère est si sage, c'est un médecin, il est si sage. Sagesse humaine, il a dit oui. Mais la sagesse spirituelle, il dit, qu'est-ce que ça signifie? Pas par la force, mais par mon esprit. Cette explication, je ne serais jamais venu à cela. Dans mon entendement. Je ne serais jamais venu dans mon entendement d'avoir une telle explication. Qu'est-ce que tu penses, frère? Tu es plus âgé que beaucoup de frères jeunes ici. Est-ce que tu peux donner une telle réponse? Ou comment? Même si je casse ma tête, alors, il n'y aura jamais cette pensée qui viendra. si éclairé. Non. Nous avons besoin de la sagesse d'en haut, particulièrement dans beaucoup de situations. Si nous avons de telles épreuves, les épreuves de Dieu, et d'un autre côté, nous avons besoin d'être directement là. Cette épreuve qui vient prendre comme tentation pour que nous tombions, c'est pour ça, ne soyez pas si rapide à critiquer, ne soyez pas si rapide à juger, comme si tu savais déjà tout. Non, tu ne sais pas tout. Ça veut dire frère ou sœur. Ève était si rapide. C'est pour ça que les sœurs ne doivent pas parler si vite. C'est aussi ce que Paul dit. Les sœurs doivent mieux se taire. Demander et demande à ton mari. Et si tu es célibataire sans mari, alors demande au Seigneur. Il est notre époux. De pas directement juger, pas directement dire ton opinion. Qu'est-ce que ça produit l'énervement, ça met des problèmes, des divisions dans l'Église. Nous avons besoin de la sagesse d'en haut. Peut-être nous pas, mais moi j'en ai besoin. J'ai souvent dit au Seigneur, avec son Église, c'est pas fait avec les mains d'hommes. Et c'est pas de cette création. C'est céleste. C'est Jérusalem. Et je suis terrestre. Comment est-ce que je peux bâtir ton église si tu ne le me montres pas? Je ne suis pas capable. Vous savez ce nom? La Jérusalem céleste. Jérusalem céleste. Est-ce que c'est pas un merveilleux nom? Mais qu'est-ce que ça signifie? Est-ce que vous êtes céleste ou terrestre? Et avec quelle sagesse la Jérusalem céleste doit être bâtie? Notre sagesse terrestre, elle ne suffit pas. Nous devons tous apprendre. Il y a 50-60 ans, quand j'étais étudiant, je pensais, maintenant c'est tout, c'est si facile, je sais. Je pensais être si sage, mais maintenant je dois dire, aujourd'hui, je suis fou. Seigneur, tu sais. Parce que sinon, nous utilisons notre propre force, notre propre entendement, notre propre explication pour résoudre un problème. Mais ça ne va pas. Ça ne va pas. Vous demandez, doutez point. Est-ce que tu es quelqu'un qui croit ou qui doute? Tu es un croyant, non-croyant. Ou bien pas. Quand il y a des situations qui viennent, est-ce que tu crois souvent ou est-ce que tu doutes souvent? Est-ce que tu viens par les croyants ou par les non-croyants? Est-ce que tu es quelqu'un qui doute? les apôtres autrefois, les disciples de Jésus. Il y avait le frère Thomas qui doutait, qui a douté. Quelqu'un qui pense qu'il peut, mais il ne peut pas et qui peut parler beaucoup. Nous sommes tous ainsi, chers frères et sœurs. Si quelque chose se passe dans une situation, Seigneur, je crois. Et après, 30 minutes après, vraiment, est-ce que le Seigneur va faire cela? Un homme irrésolu, est-ce que le Seigneur va m'aider? Et 2 jours après, rien ne se passe. Je crois que le Seigneur n'écoute pas ma prière. Et ensuite, le soir, tu te réponds à Seigneur. Je crois. Tu es un homme irrésolu. Jacques l'a dit si clairement, l'a montré une source d'eau qui est une fois en haut, en bas, en haut, en bas, qui est emportée par tout vent. Ça dépend de ton humeur. Ton humeur va en haut, va en bas. Et comme le vent. C'est cette parole afin que nous puissions comprendre. Afin que nous comprenions un homme irrésolu. Ça veut dire avec deux âmes. Une double âme. Deux âmes. Un homme avec deux âmes, c'est pas bon. Ça ne veut pas dire que tu as deux âmes. Mais ton âme a deux côtés. Le nouvel et le vieil homme. Et tu es dans un processus. Tu as un côté du vieux et qui n'est pas encore transformé. Juste, tu as un autre côté qui est transformé. C'est pour ça que parfois tu crois et parfois tu ne crois pas. Il y a un combat. Un combat. Mais nous devons tous apprendre à croire, de croire en esprit. Paul a dit, nous avons tous le même esprit de foi. Seulement, si nous avons cet esprit de foi, nous l'exerçons, nous sommes exercés. Alors nous ne sommes pas des hommes irrésolus, mais bien plus, nous sommes constants. Un homme, un croyant constant. Loue le Seigneur. Le chemin de la foi doit grandir. Le Seigneur est celui qui commence et qui achève notre foi. Au début, on est irrésolu, c'est ok. Ça fait rien. Au moins, un irrésolu. Une fois en haut, une fois en bas, c'est ok. C'est normal au début. C'est comme la première année d'école, la deuxième année d'école. Même si nous grandissons dans notre foi, alors nous allons réussir. Je vois un enfant. Est-ce que ton enfant est irrésolu? Oui, c'est normal. C'est normal. C'est merveilleux. Mais est-ce que tu es aussi irrésolu comme ton fils? Mais tu es plus constant dans ta foi. C'est aussi normal. Louez le Seigneur. J'étais aussi irrésolu. qui c'est qui n'était pas irrésolu? Mais aujourd'hui, louez le Seigneur. Ma foi est devenue plus ferme. Ne regarde pas sur les hommes, mais je tiens ferme en lui. Ça, c'est important pour les épreuves. Sans la foi, il n'y a rien. Et c'est sûrement un mystère pour beaucoup qui disent, frère, s'humilie, se glorifie de son. Qu'est-ce qu'à avoir une personne qui s'humilie avec les épreuves? Ça a beaucoup à voir avec les épreuves. Ça, c'est penser, comme Paul a dit, nous devons voir les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Si nous voyons Christ, comme Christ était, il a. Il a laissé son trône, sa gloire. Il a quitté sa gloire, il est devenu un homme. Pas seulement en tant qu'homme, comme toi et moi, mais il a encore été plus abaissé. Ces sentiments, nous avons tous besoin. Ces sentiments. Est-ce que tu penses, quand Jésus-Christ était sur cette terre, il a vécu en tant que roi, et ensuite il y a toutes ces chose qui vient. Qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que le Seigneur va dire? Pars, je ne te connais pas, je suis le Fils de Dieu. Qu'est-ce que tu fais là? Je sais ce que tu penses. Je sais ce que tu veux. Alors pars. Si le Seigneur a ses pensées, nous qui sommes si fiers et nous pensons il y a un nouveau frère ou un autre frère qui vient. Il va avoir la communion avec toi et tu dis, ah, t'es faux. Pourquoi? Qui es-tu? D'où viens-tu pour dire que je suis faux? Tu ne sais rien. Alors, nous ne pouvons réussir aucun examen. Un homme fier ne peut réussir aucun examen. C'est dans Jacques 1,9 que le frère de condition humble se glorifie de son élévation. Il s'est humilié en tant qu'esclave. Et seulement dans cet état, il a pu réussir l'examen. Quelqu'un orgueilleux ne peut réussir, un orgueilleux ne peut réussir aucun examen. Il dit là que le frère de condition humble, ça ne veut pas dire simplement qu'il est pauvre, mais c'est aussi un pauvre. Heureux les pauvres en esprit. Mais l'évangile de Luc dit nous devons voir dans les choses spirituelles d'être pauvre. Si tu sais, si un frère est pauvre ou il pense, j'ai rien. Je peux pas tout saisir ce qu'on dit. Regarde les autres. Ils ont 5 talents. Moi, j'en ai même pas un. Est-ce que même pas juste? On en a au moins un. Mais ce frère, comme Jacques a dit, il s'humilie et il ne peut pas le faire alors. Et il a tout reconnu. Il ne réussit pas. Ah, il a tout caché. Il l'a directement arrêté. Il a aussi voir. Il est né de nouveau, il est sauvé. Il est un fils de Dieu. Et il a un état céleste, il doit le voir. Il n'est pas plus bas que celui qui a 5 talents. Je suis un frère, un père. Si le père me voit, il me voit. Pourquoi est-ce que j'ai ça ici? C'est un homme pauvre. Est-ce que tu penses que le père va dire cela? Le père nous voit tous de la même manière. Et malheureusement, nous ne voyons pas tous de la même manière. Comme les Chinois disent, un œil juste est plus grand que les petits. Si je vois la même personne, je vois cet homme riche avec un grand œil, un œil grand ouvert. Et si je vois un pauvre, alors je vois rien. Mes yeux sont petits, je vois pas. Je vois rien. Ça, c'est pas bon. Ou un frère qui s'humilie. Complexe. Est-ce qu'on dit ça en allemand? Il vient de l'Allemagne, c'est comme on dit. Quelqu'un d'inférieur. Ça ne doit pas être le cas avec un frère plus inférieur. Parce que dans les yeux de Dieu, il n'est pas inférieur. Tous sont égaux. Si quelqu'un dans l'église pense, malheur à celui qui pense qu'il est plus élevé dans l'église que les autres, un tel frère ne peut pas réussir d'examen, d'épreuve. Il n'a même pas besoin d'épreuve parce qu'il a déjà échoué. Oh Seigneur. Pour ça qu'il est dit dans Jacques, le frère de condition humble, pour dire, tu es un frère, tu es un fils de Dieu. Dieu t'a donné sa nouvelle naissance, son esprit vit en toi. Tu as un grand état comme les autres, pas seulement haut, mais élevé. Nous sommes avec Christ dans les lieux élevés. C'est pas seulement haut, mais c'est dans les lieux élevés. Tu appartiens à la famille céleste. Une telle attitude d'avoir un frère de condition humble et celui qui est le riche de la grâce de Dieu, ça veut dire que je ne peux pas regarder quelqu'un d'inférieur par ce sentiment. D'un autre côté, il dit pas un homme riche. Il dit pas un frère. Certaines personnes disent alors le riche, c'est pas bon, c'est sûrement pas un frère. Mais souvent, le riche est si fier. Pour ça que le Seigneur a dit, un riche, c'est plus difficile pour un riche, c'est plus simple pour un chameau de rentrer par le trou d'une aiguille qu'un riche de rentrer dans le royaume. C'est pas si bon, bien sûr. Ça ne veut pas dire qu'un homme riche ne peut pas du tout y arriver. Il n'a pas dit n'y arrive pas du tout, c'est impossible. Non, ni seulement ce sera plus difficile. Pour un chameau, ce sera plus facile. Mais ça ne veut pas dire. Mais ensuite, le Seigneur dit aussi, pour les hommes, ce n'est pas possible. Mais pour mon Dieu, toutes choses sont possibles. Louez le Seigneur. J'ai vu beaucoup d'hommes riches qui sont venus dans le royaume céleste, qui ont tout donné pour l'œuvre de Dieu, pour le royaume de Dieu. Rappelez-vous l'homme riche. Pensons qu'il a déjà accompli toutes les lois, mais il lui a dit, il y a encore une chose qui manque. Vends tout ce que tu as et donne au pasteur, non, mais aux pauvres. Les pasteurs, tous les pasteurs que je connais sont si riches. Et ceux qui sont pauvres, ils restent pauvres. Donne-le aux pauvres et viens. Il est parti triste. Le Seigneur a dit, non, viens, viens. Ne pars pas. Reste. Tu dois encore beaucoup apprendre. Mais le Seigneur ne l'a pas renvoyé. Le Seigneur n'a pas fait des reproches. Nous pensions ainsi. Tu as rejeté cet jeune homme. Non. Personne. Nous renvoyons personne. Sous, ça dépend s'il a un grand péché, mais même ça. Viens, reste. Le Seigneur ne rejette personne. Mais nous pensons, ah, le Seigneur l'a rejeté. Non. Ne pense pas ainsi. Une telle pensée est fausse. Ce n'est pas la sagesse d'en haut. Dans tous les cas, chers frères et sœurs, nous avons beaucoup à apprendre par les épreuves. Pour les pauvres, pour conditions humbles et pour les riches. Si c'est des frères riches spirituellement, ah, ils savent tout. Et à la fin, ils sont si fiers. Il y a tout qui est fini. Ils ont oublié que tous les dons ne sont pas d'eux, qui sont venus, pas venus d'eux. Pas de leur entendement. Mais de la chute de la lumière. Là, nous devons remercier Dieu et le louer et pas penser, oui, je suis celui. Je suis l'ancien ou je suis celui qui enseigne. Chers frères. Et ensuite, pour ça, vous avez déjà parlé de cela. Pas dire que nous sommes tentés par Dieu. Nous avons déjà touché ce point, vous pouvez vous-même lire. Pour ça que Jacques dit, Ne vous laissez pas tromper, mes frères. Venons dans les épreuves. Alors tu penses, ça ne peut pas venir de Dieu. Pourquoi est-ce que ça se passe? Et ensuite, Satan utilise. Il dit, bien sûr. Oui, Dieu veut quelque chose de mauvais avec toi. Ça ne doit pas être ainsi. Il dit, non, je te donne autre chose. C'est ainsi, malheureusement. Apprenez d'Ève. Ça, c'est important. Tous les bons dons, les cadeaux parfaits viennent de Dieu. Dieu ne veut pas te donner quelque chose qui n'est pas bon. Mais si vous, particulièrement dans Matthieu, donnez vos enfants de bonnes choses, combien plus Dieu? Et d'où est-ce que ça vient, ces bons dons? Du Saint-Esprit. Pour ça que dans l'évangile de Luc, il dit combien plus Dieu va vous donner le Saint-Esprit si vous le lui demandez. Ça veut dire tous les bons dons viennent par le Saint-Esprit en nous, qui habite en nous. De Romains 8, celui qui n'a pas épargné son fils, mais qui a donné son fils unique, tout ce dont nous avons besoin, il va nous le donner. Il ne va jamais te donner quelque chose de mauvais, Dieu, pour que tu tombes. Non, sûrement pas. Notre Dieu n'est pas ainsi. Ô Seigneur Jésus, il ne se change jamais. Notre Dieu, comme dans l'épître d'Hébreux au chapitre 12, Jésus-Christ le même, aujourd'hui, hier et en éternité. Nous sommes irrésolus. Nous sommes très en fonction de l'humeur. Qui ne marche pas en fonction de l'humeur? Peut-être que quelqu'un est une exception. Personne n'est une exception. Nous sommes en fonction de notre humeur, nous changeons vite. Nous changeons d'humeur comme le temps. Le matin, le soleil brille. Et le soir, rien, nuage noir qui est venu et la pluie, un orage, une tempête, nous sommes irrésolus. Seigneur Jésus, mais notre Seigneur, Dieu, est toujours le même. Pour lui, il ne peut pas y avoir de transformation ou d'ombre par changement. Mais la lumière dans la création se tourne toujours. C'est pour ça le matin, il y a du soleil. À midi, c'est très chaud. Et le soir, c'est sombre. Ça se change et ça se tourne tout le temps. Mais Dieu ne se change jamais. Dieu n'a pas besoin de transformation. Il ne se transforme pas. Parce que pour lui, il n'y a pas de nuit. Et dans la Nouvelle Jérusalem, dans la Jérusalem céleste, il n'y a plus de nuit. Parce que Dieu lui-même est la lumière. Et ensuite, plus loin, il donne un conseil. Savez, frères, mes frères bien-aimés, sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. Aussi dans le couple, dans ce qui se passe, d'être lent à parler. lent à parler. Au mieux, mettre une ferme durée éclair, fermer notre bouche. Mais bien plus. Seulement écouter, ça suffit. Même dans l'église. Si quelqu'un dit quelque chose, alors laisse-le parler, mais ne parle pas si vite. Ne réponds pas si vite. Pas donner son avis si vite, non. Notre avis ne peut pas aider. Notre avis ne peut pas amener la justice de Dieu. Pas avec la colère. Aussi de vouloir quelque chose de bon. C'est pas la justice. Pour l'amener, oui. Alors apprends. Pas dire tant de choses. Mais, verset 21, il est dit. Pourquoi rejetant toute souillure et tout débordement de méchanceté. Débordement. Notre cœur déchu, il est plein de débordement, de souillure, pas seulement un peu, ça serait bien s'il y avait seulement un petit peu. Pour ça, que nous devons célébrer la fête des pains sans levain. Une merveilleuse fête. Pas seulement le pain sans levain, de le manger, de se débarrasser du levain, mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, je m'en débarrasse et demain il revient. Ça, c'est un problème. C'est pour ça que nous n'allons jamais arrêter de se débarrasser en tout temps. Tu as une pensée, tu dois te débarrasser, et demain, il y a deux pensées qui rentrent. Et tu l'as nouveau débarrassé, et il y a encore quelque chose de pire, une pensée pire qui vient, qu'est-ce que tu fais? Tant que nous vivons sur cette terre, dans cette chair que nous portons, alors tu ne peux pas être débarrassé de cela, sauf si tu meurs. Là un peu, dans le repos, tout débordement. Le Seigneur doit nous sanctifier, pas après pas, nous transformer, la transformation a besoin de temps. Et ensuite, une parole importante, nous devons recevoir avec douceur. Nous recevons avec douceur la parole. Ça veut dire pas avec curiosité. Ah, qu'est-ce que ça signifie cela? Alors tu viens, tu prends un livre, tu fais des recherches sur Internet. Ça, c'est pas une douceur, c'est de la curiosité. J'aimerais ajouter un mot. D'être curieux de recevoir la connaissance. On ne va pas recevoir la parole qui a été plantée. La parole est comme une semence pleine de vie et elle aimerait amener le plan de Dieu pour que ça porte aussi du fruit. Et ça, ça peut pas, un orgueil ne peut pas recevoir cela. C'est pour ça. Ça continue pour nous dire, mettez la parole, en pratique la parole. Un curieux. Dans sa vie, mais il aimerait, un curieux aimerait savoir. Il aimerait savoir pour être un enseignant, pour enseigner les autres. Dans le chapitre 2, et le chapitre 3, ne soyez pas pas tant d'enseignants qui enseignent, c'est pas bon, mais de mettre la parole en pratique. Une parole si importante pour nous. Louer le Seigneur. Et ensuite, il dit, quand nous venons à la parole, nous mettons la parole en pratique, alors nous n'oublions pas dans nos vies journalières. Nous pouvons citer la parole dans les situations, nous les oublions dans les situations. Alors nous devons regarder dans la loi parfaite la liberté de persévérer, pas être des auditeurs oubliés, mais de mettre la parole en pratique, ceux qui font l'œuvre. Sera un homme heureux. J'ai pas besoin de vous dire de cela, mais j'aimerais seulement vous dire, la parole, la nouvelle alliance, c'est pas une loi, mais c'est la loi de la liberté. La lettre tue et nous lie, nous montre ce que nous devons faire. Mais notre vie, nous sommes condamnés parce que nous ne pouvons pas l'achever. C'est pour ça que la loi ne peut pas nous sauver. Mais dans la nouvelle alliance, la parole, c'est une loi de la liberté. Ça ne dit pas seulement ce que je dois faire, mais ça nous donne l'esprit de vie pour que nous puissions être capables d'accomplir cette parole par Christ. Ça nous rend libres. Ça nous rend libres. Ça ne fait pas de nous des esclaves. Comme Galate le dit, Jérusalem, c'est la Jérusalem céleste. Celui qui va naître de Sarah est celui qui est libre. Ça nous rend libres. Ne pense pas à ceci difficile. Et à la fin, tu n'as pas compris pourquoi la parole est là. Pas là pour faire de nous des esclaves, mais pour nous rendre libres. Pour que par Christ, nous puissions apprécier cette parole et avoir la substance, la réalité. Pour ça, c'est une parole de la liberté. Ça nous rend libres. Ça nous garde en Christ. La loi de l'esprit de vie en Christ nous a rendus libres de la loi du péché et de la mort. Et ensuite, à la fin du chapitre 1, louez le Seigneur. Tout ce que nous faisons, nos réunions, les fêtes, la réunion de la fête, nos offrandes, nous amenons à notre Père et la communion, le partage, la prière, ce ne sera pas en vain. Parce que sinon, il y a tout qui est en vain. Comme le Père a dit dans Ésaïe 1, vos prières, je ne peux pas les entendre. Et vos dons et vos offrandes, je ne veux pas les accepter. Parce que nous avons une telle vie. Vous êtes rien pour moi. Vous êtes contre moi. Vous ne me connaissez pas. C'est ainsi. Mais si nous faisons un tel exercice après les instructions et Jacques, et dans ce bon sens, dans notre religion, dans notre pratique, la foi, dans le judaïsme, ils ont beaucoup de pratiques, ils font tant de choses. Mais c'est en vain. Et nous, dans notre vie chrétienne, nous faisons aussi beaucoup. Mais c'est en vain si nous échouons dans chaque épreuve. C'est en vain. Une religion pure et sans tâche. Devant Dieu, notre Père, notre Seigneur Jésus-Christ, le Dieu de gloire, le merveilleux Dieu, c'est cela. Visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions et à se préserver des souillures du monde. Est-ce que tu sais? Cette parole montre que la foi est si pratique. Pas seulement la doctrine de donner des messages, on veut dire, fais ci, fais cela, va ci, voilà, fais cette œuvre, et fais ceci, fais cela. Et encore plus d'argent, on peut encore construire des salles, et encore ceci et cela. Mais si tu ne veux pas, je te montre la porte. Tu ne t'occupes pas des besoins des saints. Si c'est humainement ou spirituellement. Mais tu aimerais seulement faire une grande œuvre, avoir ta gloire. Et à la fin, tu aimes le monde. Tu aimerais être plus riche. Et à la fin, tu es comme cet homme riche. Louez le Seigneur. Chapitre 1. Nous avons fini. Chers frères, vous pouvez continuer d'avoir la communion et prier. Ceux qui sont en Asie, allez dormir, s'il vous plaît. Vous ne devez pas tout entendre, mais vous pouvez avoir téléchargé et ensuite écouter pendant la journée. Allez dormir, allez au lit. Louez le Seigneur, frères et sœurs. Allez dormir. Seigneur, sois avec notre esprit. Seigneur, nous te louons. Prions que ce que nous faisons ne soit pas en vain. Nous voulons que ce que nous faisons nous fassions de plein cœur. Pas en vain. Oups. Et dans ta réalité, fais de nous ces personnes qui mettent ta parole en pratique. Merci pour la loi, la liberté. Merci que tu ne demandes pas de nous, mais ça nous aide à vaincre. Tu nous amènes dans la liberté. Et nous prions que notre pratique de la foi ne soit pas en vain, mais soit pleine de la réalité de Christ. Merci Seigneur. La loi, la liberté. Seigneur, nous te remercions que tu nous réveilles.